Noël, le corsaire de l'information.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une actualité récente qui s'est passée en Suède, mais qui s'est passée partout dans le monde occidental. Ce sont les attentats commis par des islamistes, ou en tout cas des gens qui se réclament de la religion du prophète Mahomet. Je voulais vous parler de ça parce que depuis qu'on subit des attentats, des assauts répétés, que ce soit à Bruxelles, à Londres, à Paris, la liste serait longue. À chaque fois, on se dit, cette fois, ça sera la dernière et on va prendre les armes et se défendre. Et pourtant, il n'en est rien, car à chaque fois, c'est la même chose. Les journalistes, les politiques sont au diapason pour nous rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame, bien sûr, que ce phénomène est un phénomène lié à des personnes isolées qui n'ont rien à voir avec leur religion ou quelque chose de ce genre. Et j'organise, tant bien que mal, des manifestations qui disent pacifiques, bien sûr, pour montrer leur soutien aux victimes, aux familles des victimes. Et on organise un petit rituel avec des bougies, des ballons, pour satisfaire tout le monde et dire qu'on ne les a pas oubliés, alors que deux jours après, plus personne n'en parle. Alors ce comportement chétif est-il un comportement qui est lié à notre culture, à la culture occidentale au sens large, ou est-ce un comportement universel? Moi, dans un premier temps, j'ai vu ce qui s'est passé lorsque Erdogan s'est fait refouler à la frontière des Pays-Bas. Le peuple turc a fait savoir son désaccord et a immédiatement commis des actes violents envers l'ambassade des Pays-Bas en Turquie, mais a organisé un peu partout en Europe des manifestations à l'encontre de tout ce qui peut représenter de près ou de loin les Pays-Bas. Dans les pays musulmans, en général, lorsque leur honneur est attaqué, eh bien, ils considèrent ça comme presque un acte de guerre et n'hésitent pas à prendre d'assaut une ambassade pour signifier leur désaccord. Vous voyez comment la violence chez eux est un moyen d'exprimer ou de revendiquer, ou tout au moins de nous avertir qu'il ne faut pas jouer avec eux, il ne faut pas les sous-estimer. Et voilà comment ils répondent à une attaque qui, pour nous Européens, semble insignifiante. En contrepartie, nous Européens, lorsque nous sommes attaqués sur notre sol, notre seule réponse, c'est d'allumer des bougies et de gonfler des ballons à l'hélium. Ce qui veut dire que ce comportement n'est pas universel et qu'il dépend déjà de la culture. Et donc, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte aussi qu'en France et en Europe en général, lorsque certains pays jouaient à se provoquer avant la Deuxième Guerre mondiale notamment, on n'hésitait pas à envoyer l'armée sur les lignes de front pour montrer qu'on était présent et que si ça allait plus loin, on n'hésiterait pas à passer à l'offensive pour défendre un bout de territoire, ou parfois même pour défendre l'honneur, ou parfois même pour pas perdre la face. Pour vous dire simplement que ce comportement pacifiste est lié à la fois à une époque et à une culture en même temps, puisque nous n'étions pas comme ça avant et d'autres ne sont pas comme ça aujourd'hui. Là où je veux en venir, c'est que ce comportement dit pacifique a pris naissance dans la philosophie grecque par Aristote et Platon, et peu à peu s'est retrouvé dans la psychanalyse de Freud, qui à son tour a été repris par les mouvements pacifiques de 68 et de post-68, pour aujourd'hui avoir une résonance dans la psychologie de la résilience qui a été élaborée par un savant psychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik. Alors, pour vous la faire courte, je vais un peu expliquer mes propos et vous montrer de quoi on est parti pour en arriver à aujourd'hui. Pour Platon, au départ, l'âme et le corps sont deux choses différentes. Et pour Platon, seul l'esprit a accès au monde qu'il dit intelligible. Le corps, quant à lui, est lié au matériel, mais aussi aux opinions, aux pulsions, aux sentiments, aux ressentis. Tout ce qui fait obstacle à l'esprit, selon Platon, d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est pour ça qu'il nomme cette réflexion philosophique qui permet de se détacher du matériel et de faire évoluer son esprit. Il l'appelle le catharsis. Aristote va plus loin en disant que le catharsis est le moyen d'épurer ses passions par le biais d'une représentation artistique. Donc la musique, mais aussi le théâtre, pour Aristote, sont des moyens de purger son esprit de tous les mauvais sentiments et tout le mauvais ressenti qu'on pourrait éprouver secrètement ou non, et qui permettrait ainsi à toute personne qui ferait le catharsis de se libérer de tout ce qui est mal en lui. Catharsis, au sens grec du terme, signifie séparation du bon avec le mauvais. Avec Aristote, déjà, on se situe sur le plan de la morale, car pour lui, il s'agit de faire de personnes des gens de moralité correcte, acceptable par la société. Plus tard, dans la psychanalyse de Freud, il reprend le concept de catharsis. Pour lui, c'est un traitement thérapeutique qui permet à une personne, au moyen d'une psychanalyse, de revivre un traumatisme passé dans le but de prendre de la distance avec lui et de guérir, on va dire, de se soulager des tourments qui hantent son esprit. Il s'agit de se décharger émotionnellement de tout ce qui peut entraver le bon déroulement, le bon fonctionnement psychologique d'une personne. Avec Freud, on est clairement dans le domaine du médical, puisqu'il s'agit d'un thérapeute qui cherche à guérir une maladie enfouie, selon lui, dans l'inconscient et qui permettrait, grâce au catharsis et à sa psychanalyse, de se libérer, de guérir de sa maladie. Alors, pour résumer, on est passé de la philosophie de Platon à la morale d'Aristote pour en arriver à la médecine, ou en tout cas à la psychanalyse de Freud. Mais le pire, c'est quand on utilise des concepts et des théories pour édifier des pans entiers de la morale qui gouverne notre société. Je veux parler de la résilience de Cyrulnik. Petite parenthèse pour vous parler comment j'ai appris cette théorie de la résilience. C'était sur les bancs de la fac où j'apprenais cette théorie comme une autre parmi les 400 théories qui gouvernent un peu la psychologie. Celle de la résilience, à mon sens, revenait assez souvent dans pas mal de domaines. Alors je me suis demandé pourquoi certains professeurs tenaient tant à nous rappeler à chaque fois cette théorie. Et pourquoi ils insistaient pour qu'on retienne tout le temps ce que ce Cyrulnik veut faire passer comme message. Alors, c'est pas sans vous apprendre que la majorité du corps enseignant a une idéologie plutôt formatée à gauche. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se recrutent, hein, on va pas se leurrer. Et j'ai bien compris vite fait que cette théorie était là plus pour servir une idéologie que j'appellerais gauche pacifiste, qui défend les féministes, qui défend les minorités. C'est dans cette logique que le corps enseignant formate les étudiants que nous étions pour que plus tard, futurs psychologues pour certains, puissions prêcher la bonne parole. Et qui sait, par chance, si l'un d'entre nous pouvait se glisser dans un plateau télé et répéter très fièrement ses connaissances qu'il avait apprises sur le fameux Cyrulnik. Alors, pour vous décrire très brièvement le personnage, je ne vais pas m'attarder sur lui, hein. C'est un personnage qui voit des nazis de partout, il n'y a que ça qui l'obsède, ou à peu près, et il se rapproche plus de la psychologie de comptoir, à mon sens, que de la psychologie au sens scientifique du terme. Il est utilisé par la doxa de gauche et par l'intelligentsia comme porte-étendard d'une idéologie pacifiste, sous couvert de ses diplômes en médecine, car il est médecin psychiatre et non pas psychologue. C'est pour moi la grande différence. Alors, qu'est-ce que la résilience? Autant pour Aristote, la mise en scène d'un traumatisme était efficace pour soulager sa détresse psychologique, autant pour Freud, le fait de revivre un événement douloureux sous hypnose ou sous une psychanalyse permettait de décharger ses émotions négatives. Autant lui, il pense qu'il faut simplement prendre acte du traumatisme pour simplement se résilier et aller de l'avant. Et ça empêche la dépression, et ça empêche même toute thérapie, c'est pas la peine, il suffit juste de prendre acte de son traumatisme. En gros, de dire, eh ben ça s'est passé, c'est comme ça. Pas la peine de s'attarder dessus, allons de l'avant. Faisons comme si rien ne s'était passé. Vous voyez déjà qu'en termes de théorie scientifique, il y a beaucoup plus complexe, mais très simple et très simpliste, j'en ai pas trouvé d'autres. Et à tous ceux qui me diront que j'ai pas les armes et les connaissances et la compétence pour comprendre la pensée si profonde de ce Cyril Unique, je leur dirais que c'est les mêmes personnes qui me disent que je ne sais pas lire le Coran et que je n'ai pas les compétences et je ne pourrai jamais comprendre la profondeur de cette grande religion qu'est l'islam. En d'autres termes, balayer d'un revers de main par cet argument le fait que je ne puisse pas comprendre les pensées de M. Cyril Unique, c'est déjà faire un aveu qu'il n'y a aucun argument valable qui va à l'encontre de ce que je viens de dire. Comment alors toutes ces théories s'appliquent lorsque nous sommes victimes d'un attentat ? Alors, fidèle à la théorie de la résilience et de la catharsis d'Aristote, lorsqu'il se produit un attentat, eh bien, il faut absolument en parler et en parler beaucoup. C'est-à-dire que pendant 24 heures, 48 heures, voire 72 heures au plus, je dirais, les chaînes d'information, les politiques inondent d'informations l'attentat, l'événement traumatisant, organisent en même temps des marches, on met en scène, on est encore dans la représentation théâtrale, celle d'Aristote. On en parle beaucoup, tout ça pour exorciser la douleur qu'on pourrait ressentir ou même le sentiment de vengeance que l'on pourrait ressentir. Et si vous avez remarqué, au-delà d'un certain délai, on ne parle plus de l'événement comme s'il n'avait jamais existé. Et on entend même certains dire vers la fin des 48 heures que le terrorisme est là pour marquer les esprits et qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, il faut continuer de vivre et ne pas avoir peur, sinon ça serait les faire gagner. Vous voyez comment ça rentre en résonance avec la théorie de la résilience, qui est qu'il faut prendre acte de ce qui s'est produit et qu'il ne faut pas donner plus de crédit à ça de l'attentat, puisque sinon ça voudrait faire gagner l'ennemi, et pour vaincre de cet ennemi, il faut faire comme si rien ne s'était produit. Tout ça en plus rentre en résonance avec la culture chrétienne dont nous avons hérité depuis 1500 ans, où on voit le pape laver les pieds par exemple à des migrants, on appelle ça des migrants, qui eux dans leur pays persécutent les mêmes qui persécutent des chrétiens d'Orient. Et voilà comment on se retrouve à allumer des bougies au lieu de prendre les armes et au lieu de se défendre d'un ennemi qui ne voit en nous que ce comportement comme un aveu de faiblesse. Voilà ce qu'on attend de vous dans les 48 heures qui suivent un attentat, que vous criez votre douleur, que vous criez votre désarroi, que vous allumez la tour Eiffel aux couleurs du pays auquel l'attentat a eu lieu, que vous alliez sur Twitter avec le hashtag « Je suis Londres, je suis Bruxelles », etc. Que vous criez votre souffrance pendant 48 heures seulement. Après, par contre, il faut arrêter, et sinon ça va vite tourner à l'amalgame, et ça, on n'en veut pas. Voilà quelle sauce vous êtes cuisiné. Surtout, ne tombez pas dans leur piège. Agissez selon vos convictions. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Soyez prudents. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Edouard Kenway, le corsaire de l'information. À bientôt. Bye.